Bonsoir, chers amis de Radio Courtoisie. Figurez-vous que ce soir, je ne suis pas là. Et mon invitée non plus, elle n'est pas là. Que se passe-t-il, me direz-vous? Qu'est-ce que c'est que cette émission? Eh bien, je suis dans les Pyrénées. Et l'émission est enregistrée ce 6 mai 2026. Et cela fait maintenant 7 semaines pour vous. Et comme tous les ans, je me réfugie dans un lieu loin de Paris, un lieu qui sent le soufre, mais qui me permet de soigner ma très ancienne et fidèle bronchite. Et c'est dans ce même lieu que Sainte Bernadette s'est rendue pour soigner la sienne, sa bronchite. 3 années de suite, comme le veut la coutume médicale et l'usage en ces montagnes. Ces stations thermales pyrénéennes d'eau sulfureuse soignent les voies respiratoires, les rhumatismes, les maladies de peau, et par leurs nombreuses vertus, elles devraient même pouvoir soigner l'apothéose, comme le dit Ionesco dans la cantatrice Chauve. Enfin, ça fait du bien. Ça guérit, c'est réputé pour ça. Et pour s'y rendre, on passe obligatoirement par Lourdes. On se met dans les pas de Bernadette et le soufre se transforme bientôt en un médicament divin. Se soigner, veiller sur sa santé, en être responsable, implique une certaine tendresse. Une tendresse compatissante envers soi. Il ne s'agit pas de complaisance et de s'attendrir sur soi, mais de veiller sur sa santé, comme on le fait avec sa voiture ou avec ce qui compte pour nous, afin d'en avoir le bon usage et la juste attitude. Alors, tout en réfléchissant à cela, j'ai retrouvé chez moi un petit livre qui me vient du temps où j'étais assistante de Jean Christaki de Germain, le créateur de cette émission. Je voulais penser à lui, prier peut-être pour lui. Il nous a quittés, voilà, 2 ans, et il a rejoint le Père. Juste 2 ans. Alors, l'émission de ce jour parle de ce petit livre qui s'appelle « Éloge spirituel de la tendresse ». C'est un livre qui est édité chez Teki et j'ai bien aimé ce livre qui répond à bien des questions et qui, bien que sérieux, se lit fort agréablement. Et j'ai donc invité Odile Aumonté, l'auteur de ce petit livre charmant. Bonsoir, Madame Aumonté. Permettez-moi de vous appeler par votre prénom, Odile. Odile est votre nom de baptême. Alors, bonsoir, Odile.
Bonsoir, Nicole.
Voilà, vous m'appelez Nicole et ça me fait plaisir. C'est plus agréable pour nous deux. Alors, tout d'abord, merci d'être venue de Nancy, où vous allez repartir après l'émission. Et Odile, c'est votre prénom, un prénom plutôt rare. Et savez-vous d'où il vient?
Oui, je sais exactement d'où il vient. Donc, il vient de Sainte Odile, qui est la sainte patronne de l'Alsace. Et ce prénom en alsacien, Otilieu, vient de l'allemand et veut dire Gotteslicht, c'est-à-dire lumière de Dieu. C'est un prénom qui n'est pas facile à porter, mais qui donne toute une vocation.
L'union de Dieu.
Lumière de Dieu.
Lumière. Mais vous n'êtes pas pour moi une inconnue ni pour nos auditeurs, puisque vous étiez déjà venue dans l'émission il y a maintenant plusieurs années pour nous parler d'autres ouvrages, puisque vous êtes une écrivaine, c'est difficile à dire, vous êtes un écrivain fécond. Non, mais j'ai du mal, figurez-vous, avec les termes féminisés, et je ne vous vois ni autrice, ni auteureux, ni écrivaine, quoique, bon, enfin, à la rigueur. Ça me semble encore bien difficile. Et quel est votre point de vue à ce sujet?
Alors écoutez, moi depuis toute petite j'ai voulu être écrivain, donc je n'entends pas y renoncer et ajouter des E ou quoi que ce soit. En revanche, j'aime bien autrice qui nous vient du Moyen-Âge et donc je me dis, bon, ça fait un lien historique, j'aime bien autrice.
Ça change tout hein, de savoir que ça vient du Moyen-Âge, mais je ne savais pas ça. Ah oui, alors bon, je vais tenter autrice donc. Alors, comment en êtes-vous arrivé à écrire ce livre « Éloge spirituel de la tendresse » édité chez Arthège ?
Eh bien, c'est une demande de M. Merian, directeur des éditions Arthège, qui lançait cette petite collection « Éloge spirituel » avec toutes sortes de vertus, de qualités. Donc, il m'avait proposé un grand nombre de thématiques. Par exemple, l'espérance. Bon, juste avant, il y a eu la patience, il y a eu le repos. Il y en a eu beaucoup d'autres tout aussi beaux depuis. Quand j'ai lu la tendresse, ben en fait, pour moi, c'était une évidence. J'ai tout de suite choisi ce thème qui me parlait d'emblée.
Alors, j'ai apprécié votre introduction. Et quand nous entendons le mot tendresse, nous pouvons avoir à l'esprit l'idée d'une mollesse, d'une faiblesse naïve et un peu mièvre. Mais pas du tout pour moi. Et pas du tout. Pour moi, la tendresse, ça n'est pas secondaire. Même si ça, les gens pensent que c'est secondaire, pas du tout. Pour moi, c'est un surplus, mais positif. C'est en plus. C'est pas obligatoire d'avoir de la tendresse. Mais s'il y a la tendresse, c'est mieux. C'est bon pour les... C'est-à-dire que... Il y a quelque chose dans la tendresse qui laisse entendre que c'est bon pour les femmes, d'une manière un peu négative. On dit oui, c'est bon pour les nanas. Moi, j'ai entendu des hommes qui roulent des mécaniques ne pas vouloir connaître la tendresse. Comment est votre ressenti ?
Oui, c'est vrai qu'on imagine moins les hommes, et encore ça change. Mais c'est vrai que oui, dans l'histoire, ben oui, les hommes, pour eux, la tendresse c'était la faiblesse. Il fallait toujours qu'ils se montrent forts. Et aujourd'hui, où ils se permettent un peu
des
plus de faiblesse, eh bien, ils se permettent davantage de tendresse, et on a tout à y gagner.
Oui, je pense qu'ils se prennent toujours un petit peu pour des durs, mais comme vous dites, ça change un peu. Alors vous dites, la tendresse, c'est ce débordement et ce qu'il nous reste à offrir quand on a donné le nécessaire. C'est comme un supplément d'amour qui coule de l'amour. Alors on va peut-être regarder votre livre et le parcourir. Comment voyez-vous ça ?
Oui, alors donc l'idée du plan, c'est un peu de voir la tendresse dans ses aspects humains. Ensuite, les obstacles à la tendresse. Et puis après, la tendresse au niveau un peu plus spirituel. Voilà, c'est un peu l'idée de l'éditeur de suivre un cheminement comme ça, avec au milieu comme un coup d'arrêt avec les trois obstacles à la tendresse. Et puis, voilà, s'élever vers le ciel. Moi, j'ai bien aimé cette idée, donc voilà, j'ai adhéré.
Alors, la tendresse... Ça implique quelque chose qui est finalement très profond, mais qu'on ne montre pas. Ça a des racines vraiment au fond du cœur.
Oui.
Ça s'exprime de manière un peu extérieure, mais ça part profondément du cœur.
Oui, oui. En fait, on va trouver les câlins, serrer dans les bras, une caresse sur la joue, tapoter les cheveux, des gestes de tendresse. Mais comme vous dites, en fait, c'est vraiment ce débordement du cœur. Y a une gratuité dans la tendresse. Quand on a tout donné, ben, il reste la tendresse qui déborde, en fait, qu'on ne peut jamais demander, qu'on ne peut jamais exiger, mais qui est là gratuitement, qui s'offre.
Ouais. Oui, quelquefois, on a comme une sorte de pudeur. On a peur de montrer trop de tendresse.
Oui, c'est vrai. Oui. En fait, la tendresse s'habille de délicatesse, de respect, de... Oui, j'aime bien ce mot pudeur que vous employez, parce que c'est vrai que c'est comme si on emballait un cadeau dans un papier cadeau.
Oui, mais on devient vulnérable, certainement, lorsqu'on donne trop de tendresse.
Oui, parce que, comme vous dites, on va chercher ça aux profondeurs de nous-mêmes. Donc forcément, on se dévoile, on s'offre à l'autre, on se rend vulnérable et on peut facilement être chassé, être repoussé. Et c'est terrible d'être repoussé dans sa tendresse.
Oui, ça c'est terrible. Alors, je voulais lire quelques vers, je pense que ce sont des vers, ou non, pas tout à fait. Disons, c'est un petit poème de Jacques Salomé, que vous citez dans votre introduction. « La tendresse est un sentiment tendre d'amitié, d'affection, d'amour, qui se manifeste par des paroles, des gestes doux et des attentions délicates. » Et c'est Jacques Salomé qui écrit cela. J'avais eu le plaisir de le rencontrer. C'est un homme tout à fait généreux, ouvert. Vous le connaissez ?
J'ai pas eu la chance de le rencontrer, mais j'aime beaucoup ce qu'il écrit. Je trouve que c'est très nourrissant, très profond.
Alors, vous commencez la tendresse par la tendresse... des mères, d'une maman.
Oui, et je pense que c'est la plus évidente, c'est celle qu'on reçoit avant même de naître, finalement, puisqu'on est bercé par sa voix, par sa marche, par les battements de son cœur, et que quand on est aimé et attendu, on a la chance de baigner dans cette tendresse avant même de voir le jour.
Et vous qui avez vu le jour depuis quelque temps, vous êtes une maman aussi.
Oui, effectivement, oui. Je suis maman de 5 enfants.
5 enfants ? Alors, des garçons, des filles ?
3 filles et 2 garçons.
Et ça se passe bien ? Ils sont...
Alors, ils sont grands, ils sont parents à leur tour depuis 3 ans pour 2 d'entre eux et puis 4 mois pour une petite dernière.
Et il y a des petits-enfants peut-être ?
C'est ça, en fait, des petits-enfants. J'ai 2 petites filles et 1 petit-fils.
Alors la tendresse, vous qui connaissez maintenant les deux, la tendresse de la maman et la tendresse de la grand-maman, comment les situez-vous ?
Alors, c'est différent. Oui, c'est différent. On m'avait dit que c'était magnifique, que c'était merveilleux. Mais je n'imaginais pas à quel point, en fait, parce qu'il y a vraiment ce... Quand ce sont nos enfants, en fait, on les éduque. Il y a aussi la fermeté, il y a aussi l'inquiétude. L'inquiétude est toujours là. Quand on est grand-mère, en fait, c'est multiplié par 2 puisqu'on a l'inquiétude pour un petit enfant quand il est malade ou quand il y a un souci, et l'inquiétude de notre enfant qui s'y ajoute. Donc, on vit l'inquiétude au carré. Mais voilà. Mais au niveau de la tendresse, je trouve que c'est différent. Il y a quelque chose de gratuit chez le petit enfant quand on est grand-mère, parce qu'il n'y a pas de, il y a pas tellement d'éducation à la clé. Bon, bien sûr, on respecte l'éducation que les parents donnent, on respecte les principes de base, mais en même temps, on peut jouer la mamie gâteau qu'on ne pouvait pas forcément se permettre quand on était maman, pour leur donner des bases de politesse, d'éducation, de fermeté, de voilà, savoir dire non. C'est fort pour les enfants, ça l'est un peu moins pour les petits-enfants.
Alors, j'ai retrouvé un poème que j'ai cherché tout à l'heure, bien loin, et je viens de le retrouver. Je vais le lire. Pour avoir des lèvres attirantes, prononcer des paroles de bonté. Pour avoir de beaux yeux, regarder ce que les gens ont de beau en eux. pour rester mince, partagez vos repas avec ceux qui ont faim. Pour avoir de beaux cheveux, laissez un enfant y passer sa main chaque jour. Pour avoir un beau maintien, marchez en sachant que vous n'êtes jamais seul. Car ceux qui vous aiment et vous ont aimé vous accompagnent. La beauté d'une femme n'est pas dans son maquillage, mais dans la vraie beauté de son âme. C'est la tendresse qu'elle donne, l'amour, la passion qu'elle exprime. C'est un joli poème donc de l'anglais Sam Levinson.
Non, c'est un texte d'Audrey Hepburn, pardon.
Ah bon?
Oui, je crois. Ben, oui, oui. En fait, c'est le secret de beauté de... Elle, d'Audrey Hepburn.
Elle répond, oui. Vous...
Oui, qui répond...
à Sam Levinson.
Pardon, oui, le poème est de... Vous avez raison, le poème est de lui.
Et c'est elle qui
le cite, voilà, elle le cite quand on lui demande c'est les secrets de sa beauté, puisque c'était une actrice extrêmement belle et personnellement une de mes actrices préférées.
Avec un peu de tendresse autour d'elle.
Oui, oui, oui.
Alors, vous dites, parler d'un attachement naturel. Alors, l'attachement naturel d'un enfant pour sa mère, d'une mère pour son enfant, mais on voit aussi des animaux qui ont des attachements pour nous, humains, ou des animaux qui ont des attachements entre eux, même quand ils ne sont pas de la même race. On voit des chats et des chiens. On voit même des grands fauves qui se laissent attendrir.
Oui, 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 on voit des... C'est vrai que ouais, j'aime beaucoup ces vidéos où on voit des animaux de toutes sortes qui se laissent apprivoiser ou bien une lionne avec ses bébés ou bien une maman chat avec ses petits chatons. Effectivement, tout ça, c'est très émouvant. C'est des manifestations de tendresse qui nous font du bien. Je trouve que ça fait du bien d'avoir un chat sur les genoux ou un chien qui se couche à vos pieds ou même une poule qui arrive vers vous en courant. voilà, tout ça, c'est réconfortant. Oui, c'est de la tendresse.
Mais c'est... La tendresse a peut-être sa source dans la nature, donc.
Bien sûr, oui, oui, oui. Bien sûr. C'est quelque chose, oui, à la fois de naturel et d'extraordinaire. On trouve ces deux aspects.
Peut-être bien que lorsqu'on se promène dans la nature, peut-être qu'elle vient vers nous avec tendresse. Je ne sais plus, j'ai un souvenir d'être revenue de quelques jours de vacances et d'avoir traversé la forêt avec ma voiture et je voyais les branches comme si elles se penchaient vers moi parce que j'étais dans un très bon état.
Ah oui,
j'avais l'impression qu'il y avait une tendresse qui venait vers moi.
Oui, c'est vrai. Oui, moi j'aime beaucoup la nature et c'est vrai que les arbres, les plantes, les fleurs, tout me parle. Oui, j'ai l'impression que quand on pose un regard de tendresse sur la nature, elle nous le rend en fait, elle nous accueille.
Oui, oui.
Je trouve beaucoup de consolation dans la nature. Quand je suis préoccupée ou triste...
Ça rafraîchit totalement.
Oui.
Ça remet les choses en place. Mais j'ai entendu parler aussi, vous, certainement vous aussi, de ces personnes qui vont embrasser les arbres, qui restent collées à un arbre, comme une étreinte.
Oui,
une étreinte amoureuse.
Et oui, c'est vrai que oui, j'aime bien m'adosser à un arbre, m'appuyer contre lui et ressentir, je dirais pas des énergies un peu bizarres, mais la force de vie de la nature, en fait. Toute cette force, la sève qui monte, là en ce moment, c'est la période.
Et les fleurs.
Les oiseaux qui s'éveillent, les oiseaux, c'est vraiment, ça fait plaisir de les retrouver après un long hiver.
Et même hier, alors que nous avons eu, nous sommes au mois de mai, là, lorsque je parle, il y avait pendant 2-3 semaines un très beau temps et il s'est mis à pleuvoir très fort ces jours-ci. Et ce matin, j'entendais les oiseaux, mais tellement contents d'avoir la pluie. Enfin, je crois qu'ils avaient soif. Mais ils faisaient un gazouillis énorme ce matin.
Ah oui.
Avec la pluie. Comme un remerciement.
Oui, oui.
Ils chantaient la pluie. Alors, je pense aussi que cette tendresse, elle est issue d'une forme d'amour. Un amour sans objet, même.
Oui.
Un amour qui déborde en soi.
Oui, voilà, qui déborde. Un amour de reconnaissance, un amour de gratitude pour ce qui nous entoure, tout ce qui nous fait du bien, la force de la mer, la paix de la forêt, la grandeur des montagnes. Tout ça, oui, nous inspire Oui, nous réconforte.
L'amour s'invente au fil des jours, dites-vous. Au fil des jours, il s'invente. Au fil des semaines, des mois, des années. C'est se réinventer chaque jour. C'est bien, bien difficile de le faire.
Oui, c'est difficile.
Et en même temps, c'est tellement riche.
Et en même temps, c'est riche, oui, oui, oui. Mais que ce soit en couple ou en famille, c'est vrai que, en fait, il faut se réinventer et finalement se rechoisir pour ne pas tomber dans la lassitude, dans l'ennui, dans l'envie de regarder ailleurs ou de faire autre chose, voir autre chose, choisir une autre vie. En fait, c'est un choix qu'on fait tous les jours. Et plus on refait ce choix, plus l'amour s'approfondit et s'intensifie.
Et la tendresse, qui donc est née de l'amour, je pense, la tendresse... Quand il n'y a pas de tendresse, c'est terrible. Vous en parlez dans votre livre. Vous faites allusion aussi à Hervé Bazin, ce livre. Comment c'est ?
Oui, c'est Vipère au poing.
Vipère au poing.
C'est vrai que
cette
j'aime
mère
bien...
qui n'a pas eu, c'est terrible.
Oui, j'aime bien. Puiser dans la littérature des exemples, parce qu'en fait, bon, ce sont des archétypes, mais je trouve que c'est intéressant. Donc, j'ai mis en parallèle Augustine, la mère de Marcel Pagnol, dont il parle avec tellement de tendresse.
Oui, oui.
C'est toujours très émouvant, le château de ma mère. Et puis, à l'inverse, cette mère qui n'a aucune tendresse, aucun sentiment maternel, qui est d'une cruauté effarante, dans Vipère au poing. Avec ses trois enfants, ça fait froid dans le dos, en fait.
Ouais.
Mais c'est vrai que malheureusement, il y a on parle d'instinct maternel, mais non, en fait, c'est vraiment un choix qu'on fait de rechoisir nos enfants, même dans la fatigue, même dans le baby blues et tout ça, le postpartum. Voilà, il y a des moments difficiles, il ne faut pas non plus idéaliser, et parfois la tendresse maternelle n'est pas là. Et pourtant, l'attachement peut se faire quand la volonté vient suppléer à quelque chose qui est trop naturel, peut-être, et qui ne se met pas forcément en place.
Alors, j'ai rencontré, c'était il y a une semaine, quelque chose comme ça, une jeune femme qui est né avant terme, bien avant, prématuré. Et cette jeune femme, elle a 45 ans, disons. Et il n'y avait pas ce qu'il y a maintenant. On mettait le bébé dans une couveuse et les parents n'avaient pas accès du tout. Alors que maintenant, on permet aux parents de venir près de la couveuse et on peut passer la main, caresser le bébé. Et elle n'a pas connu ça. Et elle dit qu'elle est restée un mois en tant que prématurée dans une couveuse en n'ayant aucun contact avec personne.
Oh là là, oui,
c'était... Donc, elle a 45 ans et elle dit... C'est terrible, je me sens toujours un peu abandonnée. Elle se fait suivre toujours par un psychologue ou elle se fait suivre parce que pour un rien, elle se sent perdue, abandonnée.
Ah oui, 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 oui. Oui, ben, en fait, une de mes filles travaille justement dans un service de bébés prématurés comme infirmière puéricultrice et elle nous parle souvent de l'importance dont le personnel soignant a pris conscience au fil des années, du contact, de la présence des parents. Donc il y a ce qu'ils appellent le pot à pot, c'est-à-dire on met le bébé dénudé sur la maman dénudée elle aussi pour qu'il y ait vraiment un contact qui se renoue comme quand le bébé était dans le ventre de la maman. Ça marche aussi avec le papa, hein, bien sûr. Oui. Voilà.
Et on leur parle.
On leur parle. Donc, j'ai eu la chance d'aller voir ce service donc à Nancy. Et c'est incroyable quand vous arrivez. Il y a une lumière tamisée, il y a une musique toute douce, il y a une ambiance incroyablement sereine, et malgré la difficulté, puisque ce sont des enfants en danger, fragile et bien le taux de survie est bien meilleur quand les parents sont là, quand l'enfant est caressé, quand il est pris dans les bras et quand finalement quand on fait passer la tendresse avant l'hygiène ou avant l'asepsie et toutes ces précautions qui sont nécessaires bien sûr avec des si petits bébés mais qui ne doivent jamais faire oublier la nécessité vitale de la tendresse, de l'amour, de l'affection, de la présence des parents.
On ne peut pas s'empêcher de penser à ces enfants qui sont nés dans l'Allemagne nazie, qui sont nés d'un père et d'une mère qui étaient purs ariens, qui devaient faire des merveilles. Mais ces enfants étaient abandonnés, ils étaient élevés sans aucun amour. Et ça n'a rien donné, ça a donné au contraire des enfants désorientés et dangereux même.
Oui, 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 oui. Bien sûr, enfin, aucun enfant ne devrait grandir sans amour. C'est vraiment révoltant. Et je me souviens d'une religieuse très âgée qui me parlait de son travail dans un orphelinat. Alors, j'imagine que c'était dans les années 50, il y a longtemps. Et elle disait, mais il y avait tellement d'enfants qu'en fait, on ne pouvait pas les prendre dans les bras pour donner le biberon. Donc, on calait le biberon dans un oreiller. Et c'était à la chaîne et elle en pleurait plus de 50 ans après en racontant ça, en disant on aurait tellement voulu au moins le temps du biberon, les prendre dans les bras, les embrasser et malheureusement ils étaient tellement nombreux qu'on pouvait même pas alors elle disait qu'elle profitait de la toilette, du moment de la toilette pour les câliner, les chatouiller, les prendre contre elle voilà, c'était des petits moments volés dans un emploi du temps chargé.
Et c'était où ?
C'était en France, mais je ne sais plus trop où. Oui, c'était dans l'Ouest. Je ne me souviens plus exactement où elle était.
On fait beaucoup plus attention.
On fait beaucoup plus attention. Oui, il y a une prise de conscience que l'amour est nécessaire.
On pensait que c'était bien d'élever les enfants à la dure.
Oui, Oui, il y avait un côté, après les guerres, après les... Voilà, il y a eu des périodes difficiles, donc on se dit que c'était les plus forts qui survivaient. Mais est-ce que ce n'était pas finalement les plus aimés qui survivaient ?
Oui. Je pensais qu'on pouvait se faire une petite halte dans nos propos en écoutant Bourvil.
On peut vivre sans richesse, presque sans le sou. Des seigneurs et des princesses, il n'y en a plus beaucoup. Mais vivre sans tendresse, on ne le pourrait pas. Non, 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 on ne le pourrait pas. On peut vivre sans la gloire qui ne prouve rien. Être inconnu dans l'histoire et s'en trouver bien. Mais vivre sans tendresse, il n'en est pas question. Non, 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 il n'en est pas question. Quelle douce faiblesse, quel joli sentiment, ce besoin de tendresse qui nous vient en naissant. Vraiment, 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 le travail est nécessaire, mais s'il faut rester des semaines sans rien faire, eh bien, on s'y fait. Mais vivre sans tendresse, le temps vous paraît long. Long, 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 le temps vous paraît long. Dans le feu de la jeunesse naissent les plaisirs, et l'amour fait des prouesses pour nous éblouir. Oui, mais sans la tendresse, l'amour ne serait rien. Non, 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 l'amour ne serait rien. Quand la vie impitoyable vous tombe dessus, qu'on n'est plus qu'un pauvre diable broyé et déçu, alors sans la tendresse d'un cœur qui nous soutient, non, 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 on n'irait pas plus loin. Un enfant nous embrasse parce qu'on le rend heureux. Tous nos chagrins s'effacent, on a les larmes aux yeux. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, dans votre immense sagesse, immense ferveur, faites donc pleuvoir sans cesse au fond de nos cœurs des torrents de tendresse pour que règne l'amour, règne l'amour jusqu'à la fin des jours.
Alors, vous connaissiez la chanson ?
Non, je ne connaissais pas et je la trouve magnifique. J'aime beaucoup Bourvil, je trouve que c'est vraiment quelqu'un qui incarne la tendresse, la douceur, la délicatesse, même à travers son humour, c'est toujours tendre, c'est jamais méchant. Et cette chanson me touche beaucoup, je trouve que c'est vraiment tout à fait ce que j'ai voulu exprimer dans mon livre.
Oui, c'est ce qui m'a semblé. Je suis contente que vous l'ayez entendue.
Merci.
Alors, nous allons continuer à lire votre livre. Donc, nous parlions de la tendresse de la mère, mais un enfant a une mère, un père. Peut-être allons-nous parler du père.
Oui.
Alors, j'ai le souvenir, lorsque j'ai eu mon fils, le père avait un petit peu peur le jour de la naissance, au moment... Elle n'était pas tranquille et l'infirmière ou la sage-femme a pris mon fils dans ses deux mains comme ça et lui a mis carrément dans les mains. Il était paniqué parce que c'était la première fois qu'il pouvait être père. Il était complètement bouleversé.
Oui, 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 je comprends parce que c'est vrai que la mère... en fait l'a senti, voilà, l'a senti bouger, l'a senti en fait, même si la rencontre est là, elle a l'impression de le connaître déjà, voilà. Alors que le père, lui, il a ce sentiment de devenir père le jour de la naissance et pas avant, même s'il est attentif à sa femme, même s'il est attentif à tout ce qui se passe, au développement du bébé intra-utéro et tout ça. Mais il devient vraiment père au fur et à mesure, en fait, à la naissance, et puis quand l'enfant lui parle, et quand l'enfant a besoin de lui, et quand l'enfant l'appelle, et bien sûr, quand il lui dit papa, alors là, c'est le summum. Je me souviens que mon fils... C'était un peu la compétition entre ma belle-fille et mon fils pour savoir quand est-ce si le bébé allait dire d'abord papa ou maman. Et on remarque que bien souvent, l'enfant dit papa en premier parce que c'est plus facile à prononcer. Papa, ça vient tout seul. Pour la plus grande joie des papas. Et les mamans, finalement, n'ont pas besoin de ça puisqu'elles voient beaucoup d'autres interactions avec le bébé. Donc voilà, ça fait plaisir à tout le monde.
Je lis un petit peu de votre livre. Il y a le père qu'on a eu, le père qu'on aurait voulu avoir, le père qu'on croyait mériter, le père que l'on s'est inventé, les figures paternelles qui nous ont marquées. Et il y en a un enseignant, un prêtre, un acteur, un ami de nos parents. Le père d'un camarade. Vous le voyez, tout ça. Je me souviens, j'étais très, très, très amoureuse. Je rêvais de cet homme merveilleux qui était Gérard Philippe, cet acteur qui faisait rêver toutes les jeunes filles. Et c'était de cet ordre aussi, quand même. Il y avait quelque chose du père en même temps.
Oui, c'est vrai.
Et de l'homme tel qu'on l'aurait aimé.
Voilà, de l'homme idéal. Ben, c'est vrai que Gérard Philippe, moi aussi, je l'aimais beaucoup. Et en plus, étant mort jeune, finalement, il est parti auréolé d'une jeunesse éternelle.
Il est resté jeune homme.
Et un peu comme Saint-Exupéry, voilà, des jeunes comme ça, enfin des hommes comme ça qui resteront toujours jeunes. Ouais, la paternité, c'est... je dirais pas que c'était mon idéal de paternité. Moi, je rêvais de quelqu'un de plus fort. Je rêvais de Jean Gabin, je rêvais de John Wayne ou d'hommes...
Gary Cooper.
Voilà, très protecteur, très solide et fort et un peu casse-cou, brave, comme on disait, audacieux.
Protecteur.
Voilà, protecteur. Ouais. Ben, c'est vrai qu'on cherche un père. En fait, j'ai l'impression qu'on est plus insatisfait de notre père que de notre mère, mais peut-être je me trompe.
Ça dépend des périodes de la vie.
Ça dépend des périodes de la vie, exactement.
Oui, oui, c'est cela. Il y a des rencontres qui se font, et puis ben c'est la vie. Hein. Alors le père, il attend cet enfant, et puis quand cet enfant naît, il est quelquefois un petit peu perdu, un peu dépourvu.
Oui.
C'est pas trop comment s'y prendre.
Oui, bien sûr. Oui. Alors, ça me fait penser justement à Sainte-Odile dont nous parlions au début de l'émission, puisque oui. Je porte son prénom et que j'aime beaucoup sa vie. Et donc, elle est née aveugle. Elle a été guérie par son baptême à 15 ans. Et quand elle est née, son père l'a rejetée d'abord parce que c'était une fille et que c'était son aîné. Il voulait un fils, un héritier. Et puis, dans un deuxième temps, quand il a su qu'elle était aveugle, il a voulu carrément la tuer parce que c'était une honte, c'était un signe de la malédiction divine, en fait, comme on retrouve dans l'évangile de l'aveugle-né, qui a péché, lui ou ses parents, pour ce qu'il soit né aveugle, demandent les apôtres. Donc, il y avait toujours cette idée de malédiction divine qui, au fil des siècles, a été remplacée par, au contraire, Dieu présent dans nos épreuves, Dieu présent dans nos difficultés, nos souffrances, nos handicaps et nos maladies. Mais à l'époque où le christianisme prenait tout juste le pas sur les coutumes barbares, il a voulu la tuer. Et donc, sa mère l'a envoyée au loin dans un monastère dont sa tante était la mère abbesse. Et puis, finalement, Odile a pris contact avec son frère, qui l'a fait revenir en cachette. Et le père, en voyant ça, au lieu de l'accueillir, braqué dans son orgueil, a tué son fils dans un mouvement de colère. Oh, et donc s'est repenti, ça a quand même touché son cœur endurci, s'est repenti et a dit « Bon, bah, Odile peut rester, mais je ne veux pas, elle ne sera pas considérée comme ma fille. » Et c'était le duc d'Alsace, donc elle avait un rang de princesse qu'il n'a pas voulu lui donner. Et puis un jour, il la rencontre sans savoir que c'était elle. Donc il voit une jeune femme toute douce, toute intimidée par sa présence, qui porte de la soupe pour les pauvres, qui cache des médicaments dans son... Et il lui dit, mais il est touché par sa douceur. Il lui dit, mais qui es-tu et qu'est-ce que tu fais? Je ne te connais pas. Et elle dit, je suis votre fille, je suis Odile. Et donc, son cœur est touché, il décide de l'accueillir à la cour et puis petit à petit, il va lui donner son château pour en faire un monastère. Donc aujourd'hui, le Mont Saint-Odile. Et ah, voilà comment son cœur de barbare s'est laissé toucher par la douceur d'Odile. Donc c'est vrai que la figure du père dans le christianisme, il y a vraiment ce passage du père barbare à un père digne de Saint-Joseph, parce que la plus belle figure de père qu'on peut trouver parmi les saints, c'est Saint Joseph.
Oui, vous parliez de Sainte Odile qui... Comment ça s'est passé, cette histoire de baptême?
Alors, elle était aveugle, donc elle n'avait pas de nom. Elle était au monastère de Palma, c'est-à-dire Baume-les-Dames.
Elle était déjà âgée, c'était plus une enfant.
Elle avait 15 ans, en fait. Donc, de quelques semaines à l'âge de 15 ans, elle a grandi au milieu des sœurs, dont sa tante était sa grand-tante, était la mère abbesse. Les sœurs ne savaient rien d'elle, mais elle était très pieuse, elle vivait la vie de prière tout en étant aveugle. Et un jour, un évêque Saint-Érard, qui revenait d'Allemagne, reçoit une locution intérieure lui disant « Va au monastère de Palma, tu vas trouver une jeune fille aveugle qui n'a pas de nom, tu la baptiseras et elle recouvrera la vue. » Et donc, c'est ce qui se passe. L'évêque arrive, demande à baptiser Odile. Et donc, il lui dit, donc il la baptise et il lui dit que s'ouvrent les yeux de ton corps comme sont ouverts ceux de ton âme. Et ses yeux s'ouvrent, elle recouvre la vue. Et donc, il la nomme Odile, c'est-à-dire lumière de Dieu, Gotteslicht. Voilà, moi j'aime bien, je suis fière. Comme vous disiez, c'est un prénom très peu connu. Il y en avait quelques-unes dans ma génération, mais aujourd'hui plus du tout. Mais j'ai un fort attachement à Sainte-Odile et pourtant je ne suis pas alsacienne. Mais,
vous n'êtes pas alsacienne
mais Non, je ne suis pas alsacienne, je suis lorraine, ce qui est très différent. j'ai vraiment un grand attachement à sa vie, à sa spiritualité, à cette vie pleine d'aventures. Finalement, on croirait un roman et c'est riche d'enseignements.
Et Jeanne la Lorraine?
Oui, alors Jeanne d'Arc, bien sûr, j'ai un fort attachement à Jeanne d'Arc. Bon, j'ai un fort attachement à tous les saints. Et c'est vrai que j'ai écrit énormément de vie de saint pour leur rendre hommage. Mais
Sur Jeanne d'Arc?
Non. J'ai participé avec l'évêque d'Orléans qui organise
tous les ans, il y a la... Une sorte de
oui,
fête.
Il y a toute cette fête, avec la nomination d'une Jeanne, toutes les fêtes à Orléans. Oui, c'est à Reims et tout ça. Oui, on suit son épopée. Et donc, j'ai participé avec l'évêque d'Orléans à un hors-série qu'il a fait avec différents intervenants. Donc, moi, j'étais chargée de raconter sa vie, ce qui me plaisait beaucoup. Et puis, il y avait d'autres des théologiens qui parlaient de sa spiritualité, etc. Et moi, ce que j'aime chez Jeanne d'Arc, c'est sa... son humour et sa... En fait, elle a vraiment laissé la grâce de Dieu la traverser parce qu'elle était inculte, elle était illettrée, elle filait la laine dans sa Lorraine natale quand Saint-Michel, Sainte-Catherine et Sainte-Marguerite l'ont appelée à sauver la France. Et,
elle était inculte, mais elle savait quand même qu'il existait Saint-Michel et...
Elle était très pieuse.
Voilà,
oui, était très pieuse. Elle était déjà pieuse avant d'avoir ses apparitions, ce qu'elle appelait ses voix, qui l'aidaient. Et alors, ce que disaient les gens, notamment les officiers qu'elle commandait, c'est que quand elle parlait de la vie ordinaire, elle était, inculte, enfin... un peu limitée. Et dès qu'elle parlait de stratégie militaire et des choses de Dieu, c'était comme si elle était inspirée. Elle devenait un génie, en fait. Un génie de stratégie.
Un chef de guerre.
Un chef de guerre et un génie de stratégie militaire. Donc, elle laissait vraiment la grâce de Dieu passer en elle. Quand elle parlait humainement, elle était limitée.
C'était... Quand elle écrivait, elle faisait écrire.
Elle faisait écrire, oui.
Mais c'est évident, c'est une volonté, une détermination.
Ses... Oui, et ses réponses à ses juges sont pleines d'humour, de second degré, de foi, de détermination, de courage.
Moi, j'avais été très, très surprise par une lettre qu'elle envoyait à un Anglais. Un chef anglais, où elle lui disait, mais ça, il n'est pas question de... Mais c'était aussi raide que peut l'être Trump, actuellement.
Oui.
Mais c'était incroyable.
Alors elle, à l'inverse de Trump,
la façon dont elle envoyait...
voulait prévenir les Anglais pour leur donner une chance d'abdiquer, de rendre les villes françaises qui tenaient. Elle voulait leur donner la chance de se rendre, de faire reddition, pour qu'il n'y ait pas de morts et pas de blessés, parce qu'elle pleurait autant sur les morts anglais que sur les morts français.
Oui,
était très, très affectée par les conséquences de la guerre, les morts, les victimes, les blessures. Et elle a dit que son épée, à elle, n'avait jamais tué personne.
Oui,
elle était quand même obligée de guider les armées françaises vers la victoire. Et donc, elle écrivait toujours une lettre aux Anglais pour leur demander de renoncer, de se rendre pour qu'il n'y ait pas de victimes, ce que les Anglais refusaient évidemment à chaque fois.
Je crois que vous êtes prête pour écrire sur Jeanne d'Arc.
Pourquoi pas ? Oui, pourquoi pas ?
Nous sommes au mois de mai et c'est le mois où l'on fête Jeanne d'Arc, justement.
Absolument, oui, c'est vrai.
Alors, nous revenons à la tendresse, mais peut-être pouvons-nous écouter encore quelque chose ? Cette fois-ci, c'est Daniel Guichard qui va nous parler de la tendresse, nous enchanter de la tendresse.
La tendresse, c'est quelquefois ne plus s'aimer, mais être heureux de se trouver à nouveau deux. C'est refaire pour quelques instants un monde en bleu, avec le cœur au bord des yeux. La tendresse, la tendresse. La tendresse, c'est quand on peut se pardonner sans réfléchir, sans un regret, sans rien se dire. C'est quand on peut se séparer sans se maudire, sans rien casser, sans rien détruire. La tendresse,
la tendresse,
la tendresse. la tendresse. C'est un geste, un mot, un sourire quand on oublie que tous les deux on a grandi. C'est quand je veux te dire je t'aime et que j'oublie qu'un jour ou l'autre l'amour finit.
La tendresse.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Vous écoutez Radio Courtoisie, éloge spirituel de la tendresse. C'est le titre du livre d'Odile Aumonté et c'est édité chez Artege. Odile Aumonté est devant moi. Et c'est elle qui nous parle de la tendresse. Nous venons d'écouter donc Daniel Guichard. Qu'en avez-vous pensé ?
Ça m'a évoqué des souvenirs. J'ai déjà entendu cette chanson et je me suis dit que dans cette émission, nous n'avions pas encore parlé du pardon, alors que c'est une dimension essentielle de la tendresse. Savoir se pardonner, c'est aussi voilà, une dimension importante de l'amour, surtout quand on est chrétien et qu'on a toutes ces notions de pardon, de miséricorde et de réconciliation.
Vous parlez justement dans votre livre, il y a tout un chapitre sur la tendresse dans le couple. Nous avons fait papa, vous avez fait maman, papa, et puis maintenant c'est le couple, la tendresse dans le couple.
Oui. Bien sûr, parce que oui, l'amour chrétien, on a eu parfois une tendance à le limiter aux enfants, dire voilà, le couple chrétien, c'est d'avoir des enfants, alors que Saint Jean-Paul II a bien rappelé que la raison première du couple, c'était l'amour des époux, c'était la tendresse, c'était en fait être un miroir de l'amour de Dieu à travers l'amour humain. Donc voilà, une belle dimension du couple qu'il ne faut pas gommer. Et bien sûr, dans un couple, il y a énormément de pardon pour renouer sans cesse voilà, les fils qui ont pu se casser ou se distendre.
Et vous avez un début de chapitre qui dit « Si tu ne me le dis pas, mais elle le sait bien que je l'aime, mais il le sait bien que je tiens à lui, je le lui montre par tout ce que je fais. » Mais il faut aussi le dire, il faut aussi se regarder tendrement et se dire les choses.
Oui, c'est vrai. Oui, je pense que la génération de mes enfants, ils se disent plus facilement les choses. Ils se disent ce qui va bien, ils se disent ce qui va mal, ils disent « je t'aime ». Mais en fait, mon mari et moi, bien sûr, on se dit qu'on s'aime, mais nos enfants ont eu un grand rôle à nous demander de dire je t'aime, en fait, de dire en fait, vous nous prouvez que vous nous aimez, mais ça ne suffit pas, il faut aussi mettre les mots, il faut aussi dire je t'aime. Et donc quand on se quitte pour un voyage, là par exemple je suis pour 2 jours à Paris, et bien en quittant mes enfants, ils sont pas tous à la maison, mais on en a 2 actuellement qui sont étudiants, qui sont revenus à la maison après être partis pour une reprise d'études, et bien quand on se quitte pour plus de quelques heures, on se dit je t'aime, on se dit au revoir. Donc voilà, nos enfants nous apprennent aussi à exprimer, à manifester de la tendresse, parce que je trouve que cette génération est très tactile et ose dire les choses, ose dire ce qui va bien, ce qui va mal, et ose dire je t'aime.
Oui, ils n'ont pas peur d'être émus. Et je pense à mes parents s'aimaient, mais jamais, jamais je ne les ai entendus dire « je t'aime », se le dire et nous le dire à nous. Ils faisaient tout ce qu'il fallait, ils étaient très attentifs, mais dire « je t'aime », ça ne se faisait pas.
C'est vrai, c'est vrai.
Alors, donc vous en parlez donc dans votre livre. Parlez aussi de la tendresse dans les familles, donc entre le père, les enfants, la famille, ouvrir ses bras.
Oui, il y a toute une circulation d'amour. Oui, on a la Sainte Famille, bien sûr, la Sainte Famille de Nazareth comme
modèle.
Comme modèle, voilà. Et puis, on l'appelle parfois la Petite Trinité sur Terre, avec Joseph qui est l'image du Père, Marie qui est l'épouse du Saint-Esprit, et puis Jésus qui est à la fois dans la Trinité terrestre et dans la Trinité divine. Et voilà, toutes nos familles sont appelées à être des petites trinités. Et comme dit Vatican II, à être des églises, des petites églises domestiques, image de la grande église qui elle-même est l'image de l'amour du Christ, voilà, pour son église, pour chacun de nous à travers l'église. Donc oui, les familles sont un terreau pour l'amour, pour la tendresse, pour toutes ces manifestations.
Oui, et puis je lis la tendresse dans la vie professionnelle aussi, avec le besoin d'encouragement, de tendresse entre collègues, entre savoir oui. S'entraider.
Oui, c'est vrai que les rapports professionnels, exactement, oui, les rapports professionnels ont parfois été très durs, très dans l'exigence, et puis aujourd'hui, finalement, on se rend compte que les gens travaillent mieux quand ils sont encouragés. Il y a aussi toute cette notion de dignité du travail qui est très importante, d'avoir l'impression que notre travail a du sens, en fait, de faire quelque chose. Il y a cette histoire que j'aime bien sur un chantier, le chantier d'une cathédrale. Donc le premier qui dit moi je ramasse des pierres, le deuxième qui dit je fais quelque chose de beau, et le troisième qui dit je construis une cathédrale. Et chacun à son petit niveau. Donc en fait, c'est donner du sens à ce qu'on fait et se dire que même si on pose une pierre ou si on corrige un livre, moi c'est mon métier, je corrige des livres, et j'ai l'impression d'œuvrer pour l'évangélisation, pour quelque chose de plus grand que juste traquer les fautes d'orthographe. Donc voilà, il y a une tendresse à mettre dans les rapports professionnels.
Et puis il y a tout ce qui est transmission d'un savoir, mais d'un savoir-faire, d'un savoir-être.
Oui, c'est vrai. Alors là, on retombe sur Saint Joseph, qui est vraiment mon saint préféré. Saint Joseph qui a appris à l'enfant Jésus à travailler de ses mains, à l'amour du travail bien fait, l'entraide, venir au secours de, étant charpentier. À l'époque, c'était presque architecte. Enfin, il suivait toute la construction de A à Z, c'était pas juste apporter trois planches et puis se désintéresser du reste du chantier, c'était vraiment tout suivre.
Et puis responsable.
Oui, donc on l'imagine s'occuper de la barque des pêcheurs qui a un trou, aller voir le jeune marié qui construit sa maison, s'intéresser à chacun, à ses voisins, à tous les gens du village, et puis à montrer à Jésus comment un humble travail peut être porteur de foi, être porteur de sens et être porteur d'amour.
Et un exemple de courage.
Oui, de courage, oui, d'attention aux autres.
Vous parlez du courage d'ailleurs. Je voyais une citation d'un maître tibétain. Donc alors là, ça n'est plus du tout chrétien, c'est bouddhiste. Le véritable courage est le produit de la tendresse. Il survient lorsque nous laissons le monde effleurer notre cœur si beau et si nu. Nous sommes disposés à nous ouvrir sans résistance ni timidité, mais à faire face au monde. Nous sommes disposés à partager de cœur avec les autres. C'est un joli, joli texte.
Oui, oui.
Et puis, je crois aussi qu'il y a... La tendresse peut mener à la prière.
Oui, oui, la tendresse mène à la prière et la prière mène à la tendresse. Je pense que c'est une circulation d'amour. Oui, la tendresse, c'est quelque chose de tellement gratuit qu'on trouve sa source en Dieu. Et puis, inversement, plus on prie, plus on va recevoir cette tendresse de Dieu et plus on aura envie de la répandre autour de nous. C'est vraiment une circulation d'amour.
Vous parlez aussi, donc on a parlé du courage, mais il y a des personnes qui s'endurcissent, qui sont incapables de tendresse.
Oui, c'est vrai. Oui, oui, oui. L'endurcissement du cœur, oui, c'est vraiment... Donc, dans le livre, je cite trois obstacles à la tendresse qui sont la peur. Donc, c'est ce que vous disiez sur le courage, le manque de courage, la peur, l'endurcissement du cœur et puis, bien sûr, l'orgueil. L'orgueil qui nous fait ne pas vouloir dépendre des autres. Comme on disait au début de l'émission, se rendre vulnérable aux autres. L'orgueilleux ne se rend jamais vulnérable. Il se débrouille tout seul, il se débrouille par lui-même. Et l'endurcissement du cœur, ben on voit ça dans l'épisode de Moïse, le pharaon qui s'endurcit, qui refuse de laisser partir le peuple. Et en fait, on voit que ça conduit à de grands malheurs, puisque ça aboutit aux 12 plaies d'Égypte, et donc la dernière qui est la mort des enfants, la mort des premiers-nés. Donc, en fait, si on le prend au sens symbolique, ça veut vraiment dire que l'endurcissement du cœur quand on refuse la tendresse conduit à la mort.
Oui. Oui. C'est... Je lis « Aux douceurs immenses de Dieu, emplis l'intérieur de mon cœur. Amour, prends en moi ta croissance. Accomplis tout ce qui te plaît. » C'est quand l'orgueil n'est pas là, c'est Dieu qui est là.
Oui, oui. On a cet abandon, la place, c'est ça, la place laissée à Dieu. C'est comme si on ouvrait grand nos cœurs en les vidant de tout. Je vois l'orgueil un peu comme des épines, vous voyez des ronces qui ont pris toute la place. Et quand on balaye tout ça, en fait, il reste une grande place
au cœur de la vacuité.
Voilà, voilà.
Dieu est là quand,
comme un contenant. J'aime aussi beaucoup Thérèse de Lisieux, bien sûr, et comme beaucoup de nos auditeurs. Et donc, elle dit, en fait, qu'on soit un grand vase ou un dé à coudre, c'est pas ça l'important. L'important, c'est de se laisser remplir complètement et que l'amour de Dieu déborde. Donc, on retombe dans ce débordement d'amour qui est la tendresse. Une fois qu'on a tout donné, le surplus, le surcroît, c'est la tendresse.
Je ne savais pas que Thérèse de Lisieux avait dit cela. Vous me le faites connaître, là.
Je connaissais
l'histoire de trois vers différents, de différentes tailles. Et je connaissais sous cette forme où on remplit les trois vers de différentes tailles, différentes formes. Et lequel est le plus heureux?
Ah oui,
c'était là.
Oui, ça rejoint la même idée. Oui, oui, oui.
J'aime beaucoup ce que
Oui, cette histoire du dé à coudre, je l'avais retenue parce que c'est vrai que ça rejoint un peu la sainteté finalement. On a envie d'être des grands vases, des grands saints remplis de belles choses. Et puis finalement, un dé à coudre est tout aussi saint s'il se laisse remplir complètement par l'amour de Dieu. Elle compare aussi les saints comme des grands aigles et qui volent très haut dans le ciel. Et elle se dit qu'elle est un tout petit oiseau qui reste picoré, un petit moineau qui reste picoré au pied des gens, mais que finalement c'est la même sainteté si on se laisse porter sur les ailes du vent, donc sur les ailes de Dieu. Et si on accueille la sainteté finalement sans orgueil, en fait, dans la simplicité de ce qu'on est, de notre propre grâce.
Oui, je crois vraiment que l'orgueil, c'est le plus grand ennemi.
Oui. Il cristallise tous les autres, il entraîne au mensonge, il entraîne à la colère, il entraîne à la violence.
Et c'est bien difficile d'éviter l'orgueil.
Oui, oui.
On se trouve très souvent en flagrant délit.
Oui, malheureusement, oui.
Je crois que la prière, pour cela, est le remède numéro un.
La prière, l'exemple des saints comme Saint Joseph, Sainte Thérèse, tous ces saints qui nous apprennent l'humilité, qui nous apprennent l'abandon, comme la belle prière de Charles de Foucault sur l'abandon. En fait, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, vraiment s'abandonner pour laisser toute la place à Dieu.
Oui. Et j'ai envie de dire... Ça n'est pas très, très, très poétique, mais il n'y a plus qu'à.
Oui.
Ce que dit l'apôtre Pierre, le Seigneur ne tarde pas à tenir sa promesse, la promesse de son avènement, alors que certains prétendent qu'il a du retard. Au contraire, il prend patience envers nous, car il ne veut pas en laisser quelques-uns se perdre, mais il veut que tous parviennent à la conversion. Là aussi, c'est l'abandon de l'orgueil.
Oui, oui. Et le rapport au temps, c'est vrai que j'aime bien ce texte. Saint Paul aussi parle de la patience, de l'impatience des chrétiens qui se demandaient pourquoi le royaume n'était pas encore arrivé. Et j'aime bien tout ce rapport au temps, le fait que Dieu prenne le temps de nous attendre, en fait. C'est comme si on était dans une catastrophe, que les portes se referment et que certains vont être laissés de côté. Vous savez, dans ces incendies, où on voit ça dans le film Le Titanic, quand la porte se referme contre la montée des eaux, pour essayer de sauver le reste du bateau, ce qui ne marchera pas. Donc, il y a des gens qui n'ont pas le temps de venir, des marins qui restent derrière la porte se referme. On a l'impression que Dieu retarde la fermeture des portes pour faire entrer le plus de monde possible, et que son temps n'est pas notre temps, et que nous on voit notre impatience, alors que Dieu prend le temps de nous laisser arriver finalement jusqu'à lui, à notre rythme. Certains courent vite, d'autres courent lentement, et d'autres se traînent, et d'autres prennent des chemins détournés, et en fait, comme il nous attend tous, ben voilà, il prend le temps.
Et nous ne prenons pas toujours le temps.
Non. Et on dit, qu'est-ce que fait Dieu ? Il fait rien, il tarde. Ne tarde plus, ne tarde plus.
Vous faites aussi, à propos de la sainteté, vous parlez des béatitudes, de la tendresse des béatitudes.
Oui, c'est vrai que c'est vrai que Jésus, dans les béatitudes, nous donne un mode d'emploi de la sainteté, et en même temps, Il nous dit qui il est parce que le plus doux c'est lui, le plus pauvre c'est lui, le plus assoiffé de justice c'est lui, le plus miséricordieux c'est lui. Donc à la fois il nous dévoile son visage de tendresse et à la fois il nous invite à lui ressembler. Donc on sait qu'on n'arrivera pas à tout faire parce qu'on est trop limité, mais il nous invite à prendre un des aspects. Moi, quand j'étais adolescente, j'aimais bien Heureuse, les artisans de paix. Donc, je m'étais accrochée à ça. Ça me parlait.
Oui. Les béatitudes, oh, je trouve qu'elles sont mystérieuses. Et en même temps, elles nous concernent dans nos vies, à différentes époques de notre vie. On vit une... Il y en a une qui nous accroche plus qu'une autre.
Oui,
c'est un parcours de vie.
Exactement. C'est à la fois comme un appel et comme un phare. Parfois, on aura besoin de réfléchir sur la douceur. Parfois, on aura besoin de réfléchir sur la justice. D'autres fois, sur la miséricorde. Alors, ça me fait penser à Pier Giorgio Frassati, qui a été canonisé il n'y a pas très longtemps. Donc, j'ai écrit un livre sur
le
lui
jeune
pour
homme.
Une fois. Voilà,
oui.
Ce jeune Italien qu'on appelle l'homme des béatitudes, parce qu'un de ses biographes trouvait qu'il les avait vraiment accomplis. Lui, il était très travaillé par la justice sociale, parce qu'il était né dans un milieu très, très privilégié. Et il voulait travailler auprès des ouvriers. C'était... au tout début de la doctrine sociale de l'Église, etc., de toutes ces questions autour du communisme et de la vie ouvrière. Et lui avait vraiment à cœur d'être ingénieur pour travailler auprès des ouvriers et les évangéliser simplement par sa présence. Lui, il voulait emmener Jésus au milieu des ouvriers parce qu'il se disait qu'ils ne viendront pas chercher Jésus à l'Église, donc c'est à moi de leur apporter Jésus qui est présent en moi. Et puis, bon, malheureusement, il est mort très jeune et
la
polio...
18 ans, 18,
un peu plus, 25 ans.
25 ans.
Il se posait déjà des questions d'orientation professionnelle, etc. Et malheureusement, la polio l'a emporté en 6 jours, donc il n'a pas eu l'occasion de mettre en pratique ce qu'il voulait faire, mais dans ses écrits, on retrouve, cette aspiration à la justice sociale et puis la douceur, la pauvreté, lui qui était capable de donner sa chemise au sens propre à un pauvre qui devait passer un entretien d'embauche, qui n'avait rien de correct à se mettre. Il a enlevé sa chemise blanche, il lui a donné. Donc, la pauvreté, la douceur, le...
Et vous avez écrit un livre ?
J'ai écrit un livre, oui, s'appelle « L'ange des pauvres », c'est à destination des jeunes. « L'ange des pauvres », Saint Pierre Giorgio Frassati, c'est aux éditions Tecchi, dans une collection qui s'appelle « Les Sentinelles », qui présente une soixantaine de vies de saints racontées comme des romans pour être accessibles aux jeunes, mais aussi à tout public qui a envie de lire une vie de saint pas très compliquée, mais tout en étant enrichissante et documentée.
Mais à la fin de votre livre, il y a eu un chapitre qui n'est plus dans le thème, mais qui est intitulé « Du même auteur, de la même autrice ».
Oui. Oui, effectivement, c'est ma bibliographie. J'écris.
Mais c'est énorme
plus
ce que vous avez pu écrire.
Oui. J'écris plus de 60 livres, mais bon, certains sont très courts, hein, parce qu'en jeunesse, on peut faire des tout petits livres de quelques pages.
Je vais vous demander aussi qu'est-ce que c'est que ce patapon ?
Oui, alors je suis rédactrice en chef du magazine Patapon, qui est un magazine d'éveil à la foi et d'accompagnement de la foi pour les enfants à partir de 5 ans, qui est également édité aux éditions Teki et depuis 50 ans, puisque nous allons fêter les 50 ans du magazine Patapon en septembre, le 8 septembre 2026. Voilà, un magazine donc qui est paru tous les mois sans interruption depuis 50 ans, même pendant le confinement. Nous avons réussi.
Même pendant la guerre, non.
Alors, non, il n'y a pas eu de guerre entre 76 et. Non. C'est 1976. Donc. Mais pendant le confinement, on a réussi à avoir l'imprimeur qui a accepté de venir exprès pour imprimer le Patapon, alors que beaucoup de. Voilà, que l'imprimerie était fermée, les libraires. Enfin, voilà, tous les éditeurs étaient en difficulté, mais lui a accepté de venir donc sans qu'il y ait d'employés pour imprimer Patapon. Et puis le bureau de poste de Laval a accepté également d'envoyer le Patapon pour que les abonnés puissent recevoir Patapon, qui les a bien soutenus dans cette période qui était difficile il y a 5 ans. Ça nous paraît déjà loin, mais bon.
Mais beaucoup d'enfants ne s'en remettent pas, hein. Cette histoire de tendresse qui était absente.
Oui, c'est vrai que ne plus se toucher, ne plus se regarder, ne plus se sourire, ça a été une période pour les jeunes enfants qui finalement apprenaient la vie en société et qui ne voyaient que des masques. Je pense que ça a été traumatisant. Nous, on pouvait comprendre et les plus grands, on pouvait leur expliquer que voilà, bon, que c'était une période dont on espérait bien qu'elle allait passer, mais pour les petits qui découvraient la vie en société, voir tous ces masques, je pense que c'est un traumatisme qui leur reste. Et puis cette distance, on ne se touche plus, on ne se prend plus la main, on se lave les mains dès qu'on s'est touché, comme si le contact humain était dangereux. C'était difficile, c'était de l'anti-tendresse, vraiment. Le confinement, le Covid, c'était vraiment une attaque contre la tendresse.
Oui, et puis les enfants étaient eux-mêmes masqués.
Oui.
Alors oui. Ça, c'est terrible, terrible. Et bon, mon fils est allé voir, vous devez aller voir son père, mais voilà que son père, à l'hôpital, a attrapé à l'hôpital le Covid.
Oh là là, oui.
Interdiction de le voir et son père est décédé seul. Voilà.
Oh là là,
on s'en est pas remis.
Oui.
Ni mon fils, ni le. J'espère que. Moi, je me souviens que je l'ai eu au téléphone et il pouvait à peine tenir son téléphone.
Ah oui.
Et on avait envie d'être là, de l'aider, de lui tenir la main. Non, il fallait déposer les vêtements de change à la porte et puis c'était tout. C'était un moment épouvantable.
Oui.
Alors bon, revenons à l'autrice. L'autrice, alors vous avez écrit des quantités. Alors, c'est les sentinelles. Qu'est-ce que c'est que les sentinelles?
Alors, les sentinelles, c'est une collection qui a été créée il y a une vingtaine d'années par justement l'ancienne rédactrice en chef de Patapon, parce qu'on lui disait Patapon c'est bien mais c'est pour les petits, est-ce que vous voulez faire un magazine pour les plus grands pour continuer à nourrir leur foi après la première communion, puisque grosso modo Patapon est lu par les enfants jusqu'à l'âge de la première communion. Et elle disait ben en fait c'est très difficile de faire des magazine pour adolescents et puis on n'a pas forcément les bonnes personnes. Donc elle a eu l'idée de créer une collection de vie de saint qui serait à destination des enfants à partir de 9-10 ans et qui se lirait comme des romans. Donc le tout premier c'était Charles de Foucault, elle a commencé avec Charles de Foucault et puis actuellement il y a presque 70 saints qui sont représentés.
Mais vous, lesquels avez-vous fait?
Alors moi j'ai fait Saint Paul, Saint Jean Jean-Paul II, Saint-Pierre Giorgio Frassati. Et j'ai fait Les Jeunes dans la Résistance, donc ça c'est le plus récent, avec deux figures, Agnès de Nanteuil en France et Sophie Scholl en Allemagne, donc qui a été connue par La Rose Blanche et ce mouvement de résistance des jeunes étudiants en Allemagne. J'ai écrit aussi Sainte Joséphine Bakita, qui était esclave et qui est devenue religieuse en Italie. Voilà.
Vous les avez répertoriés là à la fin de votre livre.
Oui, voilà, ils sont répertoriés à la fin du livre.
Alors, nous avons la vie du frère Jean de Dieu de Magalon.
Oui, ça, c'est une collection un peu à part. Ça m'était demandé par les frères de Saint Jean de Dieu qui s'occupent des malades psychiatriques et qui voulaient faire mémoire de tous les saints de l'ordre hospitalier. Et donc voilà, avec les éditions du Cygne, donc une maison d'édition alsacienne. Voilà, on a fait Saint Jean de Dieu, Saint Jean de Dieu de Magalon, qui est un autre, Saint Benoît Méni. Voilà, on a répertorié les saints de leur ordre hospitalier pour en faire des petits livres.
Alors, mais ça, c'est vraiment une, deux, trois, quatre pages, cinq pages de vos œuvres. C'était très, très, très intéressant de voir.
Mais en fait, vous savez, on dit que quand on écrit la vie d'un saint, ce n'est pas nous qui le choisissons, c'est lui qui nous choisit. Et moi, j'ai eu la chance d'être choisie par beaucoup de saints.
Oui, oui, je vois, vous avez de bonnes fréquentations. Et que dit votre ange gardien ?
Ah, mon ange gardien, alors là, mon ange gardien, je l'aime vraiment beaucoup. Mon ange gardien, il est là. J'ai une relation très spéciale avec lui et je le prie tous les jours. Je prie aussi les anges gardiens de mes enfants. Parce que je ne sais pas si mes enfants le font. Et donc, voilà, je leur demande vraiment de veiller sur mes enfants, sur mes petits-enfants. Et Saint Jean 23 disait que quand il avait un entretien difficile avec, par exemple, un chef d'État ou un homme politique, et que ça allait être compliqué, il demandait à son ange d'aller parler à l'ange de la personne. Et si les deux anges s'arrangeaient, et bien après, lui trouvait que c'était beaucoup plus facile de s'arranger avec la personne. Et pourtant, il a rencontré des chefs d'État soviétiques, etc. Enfin, dans une période vraiment compliquée. Donc, je ne sais pas si l'ange gardien de Trump est accessible, mais le pauvre, je pense qu'il a besoin de nos prières.
Mais je pense que Trump ne pense pas à demander à son ange gardien d'aller voir l'autre ange gardien. Peut-être.
S'il priait son ange gardien, je pense qu'il ne serait pas l'homme qu'il est. Mais bon, voilà, c'est un jugement tout personnel.
Mais pourtant, il doit en avoir un.
Ah oui, il en a un, mais le pauvre, je ne l'envie pas.
Alors, si on continue dans votre livre, « Amour de compassion », je vois. « Notre famille nous est donnée comme un cadeau. Elle peut être le lieu des plus cruelles blessures, des plus grandes haines, des plus violents conflits, parce que nous y sommes touchés en plein cœur. Avec la grâce et la bonne volonté, elle peut devenir le lieu du plus grand amour. »
Oui, c'est vrai qu'on n'a pas prononcé le mot de compassion, mais c'est vrai que compassion, souffrir avec, au sens propre, c'est vraiment ce qu'on espère vivre en famille. C'est vrai que l'amour de la famille, c'est ce qui nous touche le plus à cœur, parce que les personnes les plus proches de nous, ce sont celles qui peuvent le plus nous blesser et le plus nous consoler, parce que finalement, quand on est blessé par un inconnu, ça nous glisse dessus. Hein, c'est pas, on est moins affecté que quand c'est nos proches qui nous blessent ou qui nous reprochent quelque chose ou qui se mettent en colère contre nous.
Alors, je vois le pape François, vous le citez plusieurs fois dans votre
oui,
livre.
Oui, je trouve qu'il a bien parlé de la tendresse.
Là, je lis, il parle de la Sainte Famille. Sainte Famille de Nazareth fait aussi de nos familles un lieu de communion et un cénacle de prière, d'authentiques écoles de l'Évangile et de petites églises domestique. C'est joli.
Oui.
Et c'est vraiment votre livre c'est un livre tendre, finalement.
Merci, merci.
Je vais demander à Claudia si elle veut bien maintenant nous faire entendre. Eh bien, vous allez savoir quoi. Eh bien, merci Odile, merci d'être venue depuis toute l'Alsace.
Merci Nicole.
Et merci à Claudia, qui n'est pas derrière la vitre, qui est juste près de nous. Et puis, je termine comme Jean Christaki le faisait. Et que Dieu nous garde.
Vous venez d'entendre le Libre Journal du Monde de la Foi, dirigé par Nicole Pilorge. Émission préenregistrée le 6 mai 2026 et diffusée pour la première fois mardi 23 juin 2026, de 21h30 à 23h, et réalisée par Claudia. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pourrons vous faire parvenir un enregistrement de ce Libre Journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.